Vous écoutez, on lit pour vous.
Les effets du stress sur la santé, un texte de Julie Hildebrand, paru le 24 octobre 2024 dans Le Franco. L'automne constitue souvent une période de l'année où on se sent aisément submergé. La rentrée scolaire, le retour des vacances estivales, une charge de travail qui s'est accumulée, bref, de quoi faire tourner la tête. Ce qui m'amène à vous parler du stress. Cette plaie qui, malgré son lot de désagréments, est une condition naturelle inévitable et omniprésente dans nos sociétés axées sur l'hyperproductivité. Bien que le stress soit en grande partie bénéfique à notre survie, nous protégeant lors d'un danger imminent, il peut devenir toxique s'il se prolonge. Il suffit de se rappeler notre passé préhistorique où nos ancêtres devaient constamment combattre pour se nourrir ou fuir pour ne pas faire l'objet du repas. Aujourd'hui, subir un stress aigu nous permet de fournir l'énergie nécessaire lors d'une entrevue, d'honorer ses échéances professionnelles, de payer ses factures ou de réussir lors d'un examen. Au cours de cette réaction de survie, une batterie chimique se met en branle à partir de l'activation de la réponse autonomique dictée par l'hypothalamus au cerveau. Ce dernier envoie un signal aux glandes surrénales afin qu'elles libèrent les hormones de stress dans le sang, en commençant par l'adrénaline. Ceci aura pour effet d'augmenter les rythmes cardiaques et respiratoires, de faire hausser la tension artérielle, d'accélérer la circulation sanguine, de tonifier les muscles et d'entraîner une attitude d'hypervigilance pour faire face à l'adversaire. Sur le plan énergétique, c'est une opération bien coûteuse pour l'organisme, quoiqu'en principe, elle ne devrait se produire que sur un court laps de temps. Néanmoins, si la situation de stress devient chronique, le cortisol, une autre hormone de stress provenant des glandes surrénales, viendra remplacer progressivement l'adrénaline en induisant des taux élevés de glucose et de cholestérol sanguin, tout en diminuant l'efficacité du système immunitaire. Bien évidemment, cette cascade aura des effets délétères sur la santé physique et mentale des individus. Tous victimes du stress. La majorité des Nord-Américains rapportent éprouver un stress important, dont 20% estiment qu'il est extrêmement élevé. Étonnamment, seulement 37% des gens jugent qu'ils possèdent de bonnes méthodes pour le contrer et vivre harmonieusement, constat qui s'est aggravé depuis l'avènement de la pandémie de COVID-19. Les causes de stress et la perception qu'en ont les individus varient grandement. Les jeunes adultes et les personnes en âge de travailler ont tendance à signaler des niveaux de stress plus élevés que les groupes plus âgés. Les femmes dénoncent souvent des niveaux de stress supérieurs aux hommes en raison de divers facteurs sociaux et économiques. Aussi, les personnes qui qualifient d'insurmontable leur niveau de stress ou qui ont tendance à la catastrophisation en souffrent plus sévèrement que celles qui pratiquent la résilience. Certaines études ont même affirmé que les pessimistes aurait une plus forte probabilité de décéder précocement. Cause et effet. Le travail est de loin la source la plus fréquente de stress, particulièrement en ce qui a trait aux relations de travail, à la focalisation sur le rendement, aux méthodes managériales douteuses, à l'insécurité d'emploi, aux préoccupations concernant l'équilibre travail-vie personnelle et au surmenage. Les difficultés financières, dettes, coûts de la vie, ou familiales, éducation des enfants, problèmes conjugaux, séparation, perte d'un être aimé, les problèmes de santé, l'impact de l'environnement, urbanisation, temps pour se rendre au travail, bruit, pollution, criminalité, et de la technologisation, obligation de s'adapter continuellement à de nouveaux outils technologiques, empressement à répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques, participation sur les médias sociaux, sont d'autres sources importantes de stress. Les effets du stress sur la santé peuvent être variés. Système cardiovasculaire, hypercholestérolémie, hypertension, augmentation du rythme cardiaque, risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Système respiratoire, exacerbation de l'asthme, essoufflement. Système digestif, reflux gastrique, crampes abdominales, ulcères peptiques, diarrhée, constipation, nausées et, parfois, vomissements, syndrome du côlon irritable, exacerbation de la colite ulcéreuse. Système immunitaire, affaiblissement du système immunitaire rendant le corps plus vulnérable aux infections répétitives, rhume, herpès, et à l'apparition de certaines maladies, dont le cancer. Système musculo-squelettique, tension musculaire au niveau du cou, des épaules et du dos, maux de tête et migraines en raison de la contraction persistante des muscles. Système nerveux central, insomnie, dépression, anxiété, irritabilité, fatigue mentale, difficulté à se concentrer, à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions, troubles de la mémoire, procrastination, baisse de la motivation, abattement et négativisme. Système endocrinien, syndrome métabolique, apparition du diabète et de l'obésité. Système reproducteur, diminution de la fertilité, cycle menstruel ou production de spermatozoïdes affectés, baisse de la libido et dysfonction érectile. Système tégumentaire, acné, psoriasis, eczéma, perte des cheveux, vieillissement prématuré. De plus, le stress peut conduire à des mécanismes d'adaptation malsains, des comportements inadéquats tels que l'abus de substances, drogues, alcool et tabagisme, la suralimentation, la sédentarité, le jeu pathologique, l'achat compulsif, l'absentéisme au travail et le retrait social. Des pistes pour aller mieux. Pour atténuer ces effets, il est essentiel d'adopter des techniques de gestion du stress. Au quotidien, apprenez à identifier vos limites. Utilisez des outils de gestion du temps pour organiser vos tâches et éviter de vous sentir dépassé. Apprenez à prioriser les tâches importantes et à déléguer lorsque cela est possible. Intégrez des pauses régulières dans votre journée pour vous détendre et vous recentrer. Cherchez les causes de votre stress afin de tenter de les éliminer. Lâchez prise pour ce qui est des situations où vous n'avez aucun contrôle. Après avoir appliqué ces bonnes méthodes, faites plaisir à l'être le plus important de votre vie, vous-même. Le choix d'une activité physique régulière, le maintien d'une alimentation saine avec une réduction consciente de la consommation de caféine et d'alcool, l'adoption d'une bonne hygiène de sommeil, la pratique de la pleine conscience et de la méditation, les bains chauds, la musique et les massages, la création d'un réseau de soutien social solide et la participation à des loisirs ou des activités qui apportent de la joie sont toutes des solutions prouvées efficaces dans l'abolition du stress. Ne négligez pas les bienfaits de l'humour, de la gratitude et de l'optimisme dans cette équation. Travaillez à remplacer les pensées négatives par des pensées positives et réaliste. Si besoin est, envisagez de consulter un thérapeute pour apprendre des façons de gérer votre stress et pour développer de sains mécanismes de défense. C'était Les effets du stress sur la santé, un texte de Julie Hildebrande, paru le 24 octobre 2024 dans Le Franco.
Une mini-maison pour contrer l'itinérance. Un texte de Jean-Baptiste Lévesque, paru le 20 novembre 2024 dans Le Charlevoisien. La ville de Baie-Saint-Paul, le centre communautaire Pro-Santé et Avise Centre de formation Charlevoix se sont unis pour contrer le phénomène grandissant de l'itinérance. Une mini-maison a été construite et aménagée pour accueillir des ménages en transition. La mini-maison, située au carrefour du boulevard Raymond Mailloux et de la rue Tremblay, suscitait la curiosité depuis plusieurs semaines. Sa vocation est maintenant confirmée. Le maire de Baie-Saint-Paul parle d'une première alors qu'il n'existait aucun lieu d'accueil pour ce type de besoin dans la MRC de Charlevoix. Michael Pilote considère qu'il s'agit d'un, citation, « geste concret pour resserrer les mailles du filet social et faire un pas de plus pour aider les plus démunis qui peuvent se retrouver momentanément dans une situation difficile. Nous aurons désormais un toit à leur offrir et éviter qu'ils ne soient à la rue en attendant qu'ils aient un logement permanent. » Fin de citation. Le maire est conscient que cette initiative ne va pas, citation, « régler entièrement la problématique sur le territoire. » Fin de citation, mais estime qu'il s'agit d'un « pas dans la bonne direction » pour traiter un phénomène de plus en plus visible. Citation, « l'itinérance était invisible dans Charlevoix depuis quelques années. Malheureusement, depuis quelques semaines, elle n'est plus cachée. » Fin de citation, constate Annie Bouchard, directrice générale du Centre communautaire Pro Santé, qui a ajouté en 2024 cette problématique à sa mission et embauché une ressource dédiée. Citation, « on est déjà une banque alimentaire, une friperie, puis on accueillait déjà ces gens-là où ils nous étaient déjà référés. Ça venait un peu de soi d'ajouter ça à notre mission. » Fin de citation, ajoute la DG, qui précise que la mini-maison n'est, citation, « pas de l'hébergement supervisé 24 heures sur 24. Ça servira à des personnes en état d'être autonomes. » Fin de citation. Un plan d'intervention sera établi avec la personne ou le ménage en situation d'itinérance et une période limite de quelques semaines sera déterminée. Citation, il faut que la personne soit prête à se mettre en action, de dire « je vais travailler pour améliorer mes conditions de vie » et aussi qu'elle respecte le code de vie parce qu'on veut que la maison reste propre et en bon état. Fin de citation, indique Annie Bouchard. L'apport d'Avise Charlevoix dans ce projet vient de son programme de formation en charpenterie-menuiserie, au sein duquel une vingtaine d'élèves ont construit une mini-maison durant 5 mois. Citation, on souhaitait lui donner une vocation communautaire. Fin de citation, mentionne Chani Tremblay, directrice du centre de formation. Après plusieurs approches infructueuses, la ville de Baie-Saint-Paul s'est montrée intéressée et a obtenu gratuitement l'infrastructure. La livraison, l'aménagement et les branchements n'ont coûté que 10 000 $. C'était « Une mini-maison pour contrer l'itinérance », un texte de Jean-Baptiste Lévesque, paru le 20 novembre 2024 dans Le Charlevoisien.
La petite histoire du hockey. Un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans la presse. Sa tradition est célébrée dans les arénas bondées, devant le petit écran et dans les ruelles de partout au pays. C'est un sport qui a traversé les époques et l'Atlantique jusqu'au moment indescriptible qui précède une mise au jeu décisive. Voici la fabuleuse histoire du hockey sur glace. Du 14e au 17e siècle, sur les eaux glacées des îles britanniques. Les jeux, impliquant un ballon et des bâtons, existent depuis des milliers d'années, du temps de l'Égypte ancienne jusqu'à celui des premiers peuples d'Amérique du Nord. Néanmoins, c'est en Écosse et en Angleterre que les premiers matchs de shinny et de bandy se déroulent sur les rivières et les étangs gelés. Un nombre grandissant de joueurs remplacent leurs bottines par des patins à glace vers la fin du 17e siècle, lorsque la famille royale s'intéresse à ce sport d'hiver. 18e siècle. Prendre possession de la rondelle. La balle de bois dur, principale responsable des blessures au tibia, cède sa place à la première rondelle. Un bouchon de bois servant à sceller les tonneaux de bière. Le mot « hockey » fait son apparition peu de temps après. Certaines personnes croient qu'il s'agirait d'une déformation des termes « hock ale » en référence à une bière locale brassée lors des festivals, ou « hockey » qui signifie « ivre ». 1875. Montréal, hôte du premier match organisé. Les militaires et les familles d'Europe qui traversent l'Atlantique jusqu'au Canada s'attachent à leurs traditions, dont celle du hockey. Plusieurs endroits, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et même dans les territoires du Nord-Ouest, affirment être le berceau national du sport. La Fédération internationale de hockey sur glace considère cependant que la toute première partie organisée a eu lieu à Montréal en 1875. Deux équipes étudiantes de l'Université McGill s'affrontaient alors, celle de James George Aylwin Creighton, l'emportant 2-1. 1893, premier champion de la Coupe Stanley. Le gouverneur général Frederick Arthur Stanley, premier baron Stanley de Preston, fait don d'une coupe à l'équipe championne de l'Association de hockey amateur AHA du Canada. Le Montreal Hockey Club est la première équipe à inscrire son nom sur le bol d'argent faisant tout juste 18,5 cm de haut au terme d'une saison de 7 victoires et une défaite. 1917, la Ligue nationale de hockey, LNH. La National Hockey Association, NHA, est dissoute et remplacée par ce qui deviendra la plus prestigieuse ligue de hockey professionnelle du monde, la LNH. Elle comporte 4 équipes à l'époque. Les Arenas de Toronto, les Senators d'Ottawa, les Wanderers de Montréal et l'actuel Tricolore. D'ailleurs, le bleu-blanc-rouge demeure la seule équipe fondatrice à avoir été active de manière ininterrompue dans la LNH depuis ses débuts. 1920, l'or aux Olympiques. La Belgique accueille les Jeux olympiques de 1920 et le premier championnat du monde de hockey sur glace. Le Canada domine complètement ses adversaires. Les Falcons de Winnipeg comptent 29 buts, et n'en accorde qu'un seul en 3 matchs. La dynastie se poursuit pendant des décennies, l'équipe canadienne remportant 6 des 7 tournois suivants. 1942 à 1967. Les 6 équipes originales. Différentes villes rejoignent et quittent la LNH à ses débuts, dont Pittsburgh, Philadelphie et Brooklyn. La situation se stabilise en 1942 et les mêmes 6 grands clubs, désignés à tort comme les 6 équipes originales, s'affrontent pendant un quart de siècle. Il s'agit de ceux de Montréal, Toronto, Boston, New York, Détroit et Chicago. En 1967, une expansion majeure visant à développer le marché américain double le nombre d'équipes qui sont désormais 12, marquant la fin d'une ère ayant vu naître des rivalités tenaces. 2004-2005, la saison manquante. Tout au long de son histoire, le hockey de haut niveau poursuivra ses activités malgré des perturbations majeures comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, des crises économiques et la pandémie de COVID-19, sauf en 2004-2005, lorsqu'un conflit de travail qui oppose les joueurs aux propriétaires d'équipes souhaitant imposer un plafond salarial mène à l'annulation complète de la saison. une première dans le sport professionnel nord-américain. Aujourd'hui, l'histoire se poursuit. La Grande Ligue réunit maintenant 32 équipes. Sa prestigieuse coupe a grandi jusqu'à atteindre 89,54 cm de haut. Plus de 3489 noms y ont été gravés jusqu'à maintenant. Il est facile d'oublier cette riche histoire quand une même question se retrouve sur toutes les lèvres chaque automne. Est-ce que c'est notre année? C'était « La petite histoire du hockey », un texte commandité paru le 19 novembre 2024 dans La Presse.
Voici pourquoi Facebook n'aime pas les autos électriques. Un texte d'Alain McKenna, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse. Peut-être avez-vous vu passer plus d'une fois sur vos réseaux sociaux des publications qui promettent de démystifier les soi-disant fausses promesses des véhicules électriques? Ces publications sont la plupart du temps fausses ou trompeuses. Elles sont partagées en masse quand même. Voici pourquoi. Il a pourtant été calculé, vérifié et répété, au moins autant de fois qu'on le souhaite, par des sources fiables et officielles, allant du prestigieux MIT à des organisations gouvernementales canadiennes et européennes, que les véhicules électriques sont moins polluants que leurs homologues à moteur à essence. Même si on tient compte de la composition de leurs batteries et de la présence de métaux rares à bord. Même s'ils sont alimentés par de l'électricité qui viendrait d'une centrale au charbon. Et pourtant, ce qui circule le plus sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, c'est l'avis contraire. Et grâce aux réseaux sociaux, cet avis gagne sans cesse de nouveaux adeptes. Écho, écho, écho. C'est ce que tente à démontrer une série de sondages que vient de publier la radio publique américaine NPR. Selon ces sondages, de 2022 à 2024, le nombre d'Américains convaincus que les véhicules électriques sont moins polluants que les véhicules à essence est passé de 63 % à 58 %. NPR a aussi séparé les répondants en deux groupes pour mieux comprendre ce recul. Le premier groupe, des répondants qui prévoient acheter un véhicule électrique un jour, juge ces véhicules le plus propre dans une proportion qui est demeurée stable à 82 % de 2022 à 2024. Sur la même période, ça a beaucoup plus bougé parmi l'autre groupe, celui qui ne prévoit pas acheter un véhicule électrique. La part de ce groupe qui croit que l'électricité est moins polluante que l'essence est passée de 38 à 30 % depuis 2 ans. Comment est-ce possible? Il faut y voir un effet de chambre d'écho, conclut le chercheur d'Ipsos qui a dirigé les sondages de NPR, Graham Gordon. La chambre d'écho est un phénomène bien connu des réseaux sociaux qui valide à leurs propres yeux les croyances des internautes, même celles qui sont non fondées. Découvrir qu'ils sont nombreux à partager le même avis renforce le scepticisme des répondants qui ne croient pas aux véhicules électriques, dit Graham Gordon. Ils sont de plus en plus unis autour de cette idée que ces véhicules ne sont pas meilleurs pour l'environnement. Regarde, un écureuil. Plus que la chambre d'écho, les réseaux sociaux accentuent l'hypersimplification des sujets complexes. Ce qui circule le mieux de nos jours sur les réseaux sociaux, ce sont des mèmes, des images accrocheuses qui se consomment en une seconde, ou des reels, des séquences vidéo qui ne durent pas une minute. On n'a pas le temps, en une image ou en quelques secondes de vidéo, d'aller au fond d'un sujet complexe comme les émissions polluantes de la chaîne de production des véhicules électriques. Ça marche dans les deux sens. Les promoteurs des véhicules électriques parleront parfois de véhicules zéro émission. C'est plus simple que de dire véhicules qui n'émettent aucun gaz d'échappement, mais dont la production, elle, pollue et nécessite au moins un baril de pétrole par véhicule. Évidemment, TikTok et X n'ont pas inventé cette hyper-simplification. Quiconque veut retenir l'attention d'un large public aura plus de succès avec des formules courtes et frappantes répétées sans cesse. Tout le monde le fait. Cette tendance existe depuis des décennies. Le Centre national d'information sur les biotechnologies, un organisme fédéral américain, a calculé que le temps d'attention moyen d'un internaute en 2000 était de 12 secondes. 15 ans plus tard, il était de 8,25 secondes. À titre comparatif, un poisson rouge aurait, dit-on, une capacité d'attention de 9 secondes. Quand vient le temps de se concentrer pour consulter des contenus plus étoffés, comme des rapports de recherche, l'attention des internautes aussi a diminué. On constatait à la fin de l'été dernier des chercheurs de Microsoft. En 2004, elle était de 2 minutes 30 secondes en moyenne. En 2023, 47 secondes. Une solution suggérée par Microsoft pour améliorer votre concentration? Devenez méta-éveillé. Demandez-vous pourquoi vous devez absolument allumer votre téléphone et consulter les réseaux sociaux toutes les 5 minutes. On ne réalise pas que ces automatismes se développent au fil du temps. Et quand on n'a que quelques secondes à consacrer à un sujet, une image marquante ou une vidéo courte seront plus attirantes qu'un contenu plus nuancé, ce qui aide à renforcer nos chambres d'écho. La question, pourtant, est toute simple. Est-ce qu'on devrait confier à Facebook et à TikTok le sort des véhicules électriques? Et de tout le reste, d'ailleurs? C'était « Voici pourquoi Facebook n'aime pas les autos électriques ». Un texte d'Alain McKenna, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse.